Les 10 et 11 juin dernier, Radio Galaxie était partenaire de la seconde édition du Festival Polar et Justice Empreinte Carbone. Petit retour en arrière, voilà maintenant les échanges réalisés avec les auteurs et les organisateurs de cet événement.
Empreinte Carbone, seconde édition, ce festival qui se déroule au Bois de Castres. Et je suis avec Éric Foissier, qui est docteur en pharmacie, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Et qui écrit des ouvrages un peu particuliers sur du roman noir, mais noir pas comme on l'entend d'habitude.
Oui, parce que c'est du polar historique, en fait. Et donc là, ma dernière série se passe au 19e siècle. À l'époque du début du règne de Louis-Philippe, on est en 1830, c'est le Bureau des Affaires Occultes. Et c'est un moment, en fait, justement, de virage au niveau de la police, puisque la police d'avance, c'était la police du fameux Vidocq. On avait été chercher un ancien bagnard pour diriger la sûreté, parce qu'il connaissait le milieu, il pouvait l'infiltrer, et du coup, prendre les gens en flagrant délit. Et puis, là, au début du règne de Louis-Philippe, les progrès scientifiques sont tellement importants, il y a des progrès scientifiques dans tous les domaines et des inventions technologiques partout, en physique, en chimie, en mathématiques, en médecine, en pharmacie, et on bascule de la police du flagrant délit à la police de la preuve. Le premier traité de médecine légale qui va faire autorité en France, à partir duquel on va pouvoir réellement faire des vraies autopsies au sens moderne, au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est le traité du docteur Orfila qui paraît en 1830, l'année de la prise de pouvoir de Louis-Philippe. Et donc du coup, le personnage principal de cette série, le Bureau des Affaires Occultes, qui s'appelle l'inspecteur Valentin Verne, il a un cursus de scientifique, il a été formé à la pharmacie au départ, et il illustre un peu ce basculement de la police. Voilà.
Il applique des méthodes scientifiques à la police.
Voilà, complètement. Il va mener les enquêtes de façon rationnelle, en recueillant des indices, en recueillant des informations à partir des cadavres, etc. Et donc là, dans le troisième tome de la série qui vient de paraître, eh bien, ça se passe pendant l'épidémie de choléra de 1832 à Paris. Donc, ça a été pour moi une façon finalement de faire un clin d'œil au lecteur d'aujourd'hui en l'emmenant dans le passé, mais en réalité en lui faisant plein de clins d'œil sur la période récente qu'on vient de vivre, puisqu'on s'aperçoit que cette épidémie de choléra qui date d'il y a deux siècles maintenant, eh bien, on a vécu à ce moment-là tout ce qu'on a revécu au moment de la Covid.
Avec les mêmes questions,
Les mêmes interrogations, les mêmes dérives, donc la recherche du bouc émissaire, les fake news, la tentation du confinement, ceux qui le peuvent qui se sauvent, qui quittent Paris, les controverses scientifiques entre scientifiques, parce qu'à l'époque on ne sait pas du tout ce que c'est le choléra en fait. C'est ce qu'on appelle à l'époque la peur bleue, parce qu'en réalité les gens meurent cyanosés, donc on parlait de la peur bleue. Et donc dans ce roman, Les Nuits de la Peur Bleue, on s'aperçoit que tout ce qu'on a vécu au moment de la Covid, ça se retrouve à ce moment-là. Des recommandations sanitaires qui sont données plus pour des raisons politiques ou moralisantes que vraiment sanitaires, etc. Et donc dans ce contexte-là, qui crée un peu un pari crépusculaire, parce que évidemment tout le monde se méfie, on a peur de tout le monde, il y a un climat de méfiance qui se répand au fur et à mesure que l'épidémie gagne les quartiers populaires de Paris. Eh bien, là, on découvre tout d'un coup une série de meurtres atroces. Les gens sont non seulement tués, mais mutilés. On leur a prélevé un organe, à chaque fois différent. Et donc, on demande à l'inspecteur Valentin Verne, qui est le chef de ce bureau des affaires occultes, de comprendre ce qui se passe, d'arrêter cette vague de crimes qui ne fait qu'amplifier la peur qui règne sur Paris à ce moment-là.
Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire tout ça ?
Bon, il se trouve que j'ai fait, comme vous l'avez rappelé, des études de pharmacie. Après, j'ai fait des études de droit. J'ai donc les deux doctorats et je suis professeur d'université. Mais à côté de ma spécialité, qui est donc le droit pharmaceutique, j'enseigne depuis 30 ans l'histoire de la médecine et de la pharmacie en faculté. Et je suis même directeur d'un petit musée d'histoire de la pharmacie au sein de l'Université Paris-Saclay. Et du coup, j'ai évidemment un goût prononcé pour la recherche historique, et puis pour toutes ces découvertes dans le domaine de la santé, médecine, pharmacie. Et donc c'est en partie ce qui m'a dicté de créer des polars historiques où je pourrais exploiter toutes ces connaissances-là. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que bah forcément, tout ce qui a rapport avec l'histoire de la médecine, de la maladie, de la mort, etc., bah, ça a rapport avec la souffrance, la vie, la mort, toutes les questions qu'on va retrouver dans n'importe quel polar. Donc ça se marie très très bien. Et donc voilà, tout en emmenant les gens dans le passé, donc là, au 19e siècle, mais j'avais écrit des séries avant qui se passaient à la Renaissance, d'autres qui se passent à l'époque des Mérovingiens, donc des petits-fils de Clovis. En fait, je confronte le lecteur d'aujourd'hui à des choses qui sont très contemporaines, qui sont la peur, l'angoisse, la mort, la vie, voilà.
Vous dites que ce sont des séries à chaque fois. Dans ces séries, ce sont les mêmes personnages qui interviennent ?
Oui, voilà. Alors, au départ, c'était plutôt des petites séries. La série qui se passe chez les Mérovingiens, c'est un diptyque, c'est en deux romans. La série qui se passe à la Renaissance, c'est trois romans. Et puis là, par contre, la série du Bureau des Affaires Occultes, dès le début, je l'ai conçue comme une série récurrente, un peu à l'exemple de toute proportion gardée de Nicolas Le Floch, la série de Jean-François Parot, parce que c'est une période qui est vraiment très très riche. C'est une période aussi très contrastée, mais c'est une période qui offre plein de points communs avec la nôtre, c'est-à-dire que c'est un moment de grosse division politique, d'instabilité politique. Louis-Philippe, c'est le dirigeant français qui aura subi le plus de tentatives d'attentats. C'est aussi une période de grands conflits au niveau ouvrier, par exemple la révolte des Canuts à Lyon en 1831, parce que comme la mécanisation du travail se développe, bien, les gens gagnent de moins en moins leur vie, tout ce qui était ouvrier, artisan n'arrive pas à gagner leur vie. Donc il y a ces conflits-là. En même temps, c'est le développement du féminisme en France. Pour la première fois, le féminisme va se structurer en France. Donc je me dis que c'est une période qui est à la fois une période du passé, mais aussi qui a beaucoup de choses à dire à l'homme d'aujourd'hui. Et donc du coup, dès le départ, je me suis dit, je vais avoir besoin de plusieurs romans pour pouvoir rendre compte de tout ça. Donc dès le départ, j'ai conçu ça comme une série récurrente. Et donc il me fallait un héros fort et susceptible d'évolution pour que le lecteur soit prêt à le suivre sur 4, 5, 6, je me suis pas donné de limite, romans. Et c'est pour ça que ce héros, c'est un héros tourmenté, qui a des failles, il a un passé lourd. Voilà, le lecteur l'accompagne dans son évolution, dans sa tentative un peu de rédemption. C'est à la fois quelqu'un qui est beau, qui a une figure d'ange. Donc le premier abord, on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un d'angélique, d'une beauté surnaturelle. Puis derrière, on s'aperçoit assez vite que voilà, il est capable de brutalité, il est capable de sortir un peu de la stricte légalité. On sent très bien qu'il y a une certaine dureté en lui et petit à petit, le lecteur va comprendre d'où vient cette dureté, va comprendre ce qui, dans son passé, entraîne des failles qui sont toujours présentes aujourd'hui.
Ce qui veut donc dire que vous conseillez de lire vos romans dans l'ordre chronologique de l'écriture.
Dans cette série, le Bureau des Affaires Occultes, oui, il faut absolument commencer par le premier tome qui a d'ailleurs eu un très très gros succès, qui a remporté le prix Maison de la Presse et qui a un peu transcendé les genres parce que du coup, c'est un livre qui a plu aussi bien à des gens qui n'avaient jamais lu de polar, qu'à des lecteurs de polar contemporain qui n'avaient jamais lu de polar historique. C'est le premier de mes livres qui a plu à un public d'adolescents qui ont lu ça comme ils regarderaient une série Netflix. Là, il vaut mieux commencer effectivement par le premier volume de la série.
Éric Poissier, merci beaucoup de ce partage, de cet échange sur l'univers donc occulte et de la médecine historique, on va dire, et de polar historique. Merci. Et puis écoutez, bon festival.
Merci à vous.
Radio Galaxie, c'est la radio que j'écoute.